Bienvenue chez nous, bienvenue au Sentier. J'espère que vous allez vous sentir chez vous ici. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent aussi sur Internet. On est vraiment content d'avoir de vos nouvelles aussi. Prenez le temps de nous écrire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était le Festival de Cannes dernièrement, puis ils ont présenté un film. C'est vraiment triste. En même temps, j'étais sous le choc, mais j'étais vraiment triste de voir ça. À quel point la solitude, hein, ça fait tellement mal. Il y a tellement de souffrance dans le monde. C'est un film qui montre une pratique, qui dévoile une pratique qu'on fait au Japon pour essayer de soulager la tristesse de certaines personnes causées par la solitude. C'est fascinant de voir comment aujourd'hui on vit, même au Japon, on pense au Japon, tu sais, qui est vraiment la mecque de la technologie, et comment on a tous ces réseaux sociaux aujourd'hui, comment on peut se sentir si seul. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée juste il y a à peine quelques temps sur le suicide au Japon. On a découvert qu'il y a plus de 70 suicides par jour au Japon, là-bas. Il y a une psychologue, justement, qui a analysé le phénomène, et elle dit que l'un des précurseurs de la dépression et du suicide, c'est justement la solitude. Alors, imaginez, il y a une firme qui a vu ça, qui a vu le besoin, et ils ont mis sur pied un système pour essayer de permettre aux gens de fuir la solitude. Et c'est ce que le film va démontrer. Imaginez que tu peux louer des acteurs qui vont venir chez vous et ils vont prétendre être ta maman, ton papa, soit une sœur, soit un frère, pour quelques heures, afin de t'aider à oublier ta solitude. Tu loues des acteurs qui prétendent faire partie de ta famille, à imaginer. Louer un acteur. C'est incroyable, mais en même temps, ça nous rappelle toute la souffrance qu'il y a autour de nous. Mais vous savez quoi? Le Seigneur, lui, Jésus, offre une solution qui est beaucoup plus profonde, plus riche, mais surtout plus vraie. Vous savez ce que ça s'appelle? Ça s'appelle l'Église. L'Église, dans les Écritures, on voit que c'est une famille. Et lorsque tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, premièrement, il vient dans ta présence, il est présent dans ta vie, il te remplit de son esprit, il t'accompagne 24 heures sur 24, il est toujours avec toi. Mais non seulement ça, il t'inclut maintenant dans sa propre famille, la famille de Dieu. Tu deviens son enfant, il t'adopte. Et c'est ce qu'on veut voir ce matin dans la lettre à Timothée. Récemment, Alex nous parlait du chapitre 4 et il nous parlait de la piété. Notre piété, notre relation avec Dieu. C'est quoi la piété? C'est ta consécration à Dieu. C'est cette communion intime qu'on a avec Dieu. Le dictionnaire Antidote va définir la piété comme ceci. Attachement fervent et respectueux à Dieu. C'est un attachement fait d'affection respectueuse. Donc, il y a une affection. C'est lorsque tu marches avec Dieu, tu t'attaches à Dieu. C'est ça qui s'appelle la piété. Plus simple, c'est aimer Dieu et s'attacher à lui et s'attacher à sa parole. C'est ça la piété. C'est notre relation avec Dieu qui est saine et qui va bien. C'est une façon de parler de notre consécration. Puis on a appris que finalement, la piété, ça n'arrive pas tout seul. On a besoin de prendre certaines habitudes. C'est en lisant la parole de Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, aller à l'église, avoir une communion avec d'autres frères et sœurs dans l'assemblée, avoir un temps de prière, développer cette discipline spirituelle. Alors, c'est ça qui enrichit notre relation avec Dieu. Chose. Il y a une discipline à développer. J'ai besoin de faire des choix dans ma vie si je veux approfondir ma relation avec Dieu. Amen. Qu'aujourd'hui, là, je sois cette personne-là. Et on s'aperçoit finalement que plus on obéit au Seigneur, plus on suit sa parole, plus on devient cette personne, à la ressemblance de Jésus-Christ. Notre caractère commence à être façonné, à changer, et on ressemble de plus en plus, lorsqu'on marche avec Dieu, comme le Seigneur a toujours voulu nous voir devenir. Alors, Paul va maintenant nous montrer que cette piété-là, cette vie pieuse, cette vie consacrée, va avoir un impact dans ta relation avec les autres aussi. Vois-tu, au chapitre 4, on voit notre piété, notre relation avec Dieu. Donc, c'est un peu comme si le chapitre 4 nous montre une flèche vers le haut. C'est la piété, c'est la relation avec Dieu. Donc, c'est notre piété envers Dieu. Puis là, au chapitre 5, ce qu'on va faire, on va voir que notre piété a un impact dans nos relations les uns avec les autres. Notre relation avec Dieu ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact avec les autres. Donc, c'est comme si le chapitre 4, tu as une flèche vers le haut, le chapitre 5, tu as une flèche autour de toi. Et c'est notre relation avec les autres. À quoi ça ressemble la piété? Ça va avoir un impact. Ça ne te laissera pas indifférent à ta relation avec Dieu. Ça va attendrir ton cœur envers les autres. Vois-tu, ton cœur qui est attendri envers Dieu va s'attendrir envers les autres, envers ton mari, ta femme, tes enfants, envers tes collègues de travail, envers les autres. Tu ne pourras pas faire autrement. La piété ne peut pas rester tranquille. Elle va vouloir poser un geste, tendre la main, faire de quoi pour les autres. Et c'est ce dont il est question dans le passage qu'on va lire. Prendre soin des autres. Notre piété, elle va être évidente. Ça va paraître que tu as une relation avec Dieu. La piété ne reste pas tranquille. Elle veut aider. Et c'est la piété en action. Donc, on veut lire un passage dans le chapitre 4, donc 1 Timothée chapitre 5, et on va lire les versets 1 à 16. C'est un passage assez long, mais ça vaut la peine de vraiment s'arrêter et lire tout cette section-là, les 16 premiers versets. D'accord? Alors, 1 Timothée chapitre 5. Vous êtes là? Alors, ne reprends pas le vieillard avec dureté. Est-ce que j'entends des amens? Moi, il me semble que je devrais entendre des amens des personnes qui ont des cheveux gris. Est-ce qu'il y a des cheveux gris ce matin? Est-ce que je suis seul à avoir des cheveux gris ce matin? Ah oui, ouais, il y en a qui vieillissent, ils ont trop les cheveux noirs. Je ne comprends pas ça. Moi, bon, alors, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un papa. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. La vraie veuve, celle qui est restée toute seule, a mis son espérance en Dieu et persévérance nuit et jour dans les supplications et les prières. Par contre, celle qui vit dans le plaisir est morte, bien que vivante. Donne-leur ces instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa propre famille, il a renié la foi, puis il est pire qu'un non-croyant. Pour être inscrite sur la liste, alors voyez-vous, l'Église avait une liste de veuves qu'elle voulait soutenir financièrement, aider. Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari, qu'elle soit connue pour de belles œuvres, qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Par contre, écarte de la liste les jeunes veuves, car lorsque leur désir leur dresse contre Christ, elles veulent se remarier, se rendre ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes, indiscrètes, en parlant de ce qu'il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire du mal de nous. En effet, certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. Alors, il y a toute une raison d'arrière-plan ici à Éphèse. Plusieurs personnes, il y a un spécialiste d'archéologie qui a démontré qu'il y avait tout un mouvement, la nouvelle femme qui s'appelait, et des gens qui laissaient abandonner leurs enfants et tout ça, puis ils ne voulaient pas se remarier, puis ils voulaient vivre des vies, menaient des vies de débauche et tout ça. Donc, il y a tout un arrière-plan, on n'aura pas le temps de regarder tout ça ce matin, mais il y a des raisons pourquoi Paul exhorte Timothée de cette façon. Verset 16, « Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qu'il les assiste et que l'Église n'en ait pas la charge, afin qu'elle puisse aider celles qui sont vraiment veuves. Alors, il n'y a pas de fausses veuves, c'est juste une façon d'exprimer, de savoir, voici les veuves que tu pourrais soutenir comme Église, qu'elles soient dans ton rôle. S'il y a des veuves qui ont des familles, des enfants et tout ça, bien que la famille les prenne à charge pour permettre à l'Église, finalement, de soutenir d'autres personnes. D'accord? C'est ça l'idée. Alors, on va arrêter la lecture ici. Courbons-nous juste un instant et prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier pour cette belle famille qui est l'Église. Alors, on veut te prier que ton Esprit Saint parle à nos cœurs, qu'on retire ce qu'on a besoin de retirer, qu'on mette en pratique avec joie ce qu'on a besoin de mettre en pratique dans notre vie et dans nos familles, dans notre foyer. Parle-nous par ton Esprit Saint. C'est seulement ton Esprit qui peut attendrir notre cœur à ta parole. Alors, Seigneur, aide-nous ce matin. Éclaire-nous par ce passage. Parle-nous afin que l'on puisse devenir une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Ce qu'on voit ici, c'est que notre piété va être évidente. Elle va être évidente de quatre façons. C'est ça que le passage va nous révéler. Premièrement, notre piété va être évidente dans notre façon de prendre soin des besoins spirituels dans l'Église. Parce qu'après tout, c'est ça que ça dit, verset 1, déjà au verset 1, ça dit « Ne reprends pas le veillard avec dureté ». L'apôtre Paul sait, parle à Timothée, ce jeune Timothée qui devait s'occuper de l'Église à Éphèse, il donne ce conseil-là, il dit « Écoute, si un vieillard dans l'Assemblée qui a besoin, s'il y a quelqu'un de plus âgé que toi, dans le fond, c'est ça, qui a besoin d'être repris, parce que ça va arriver, on a besoin de se reprendre les uns les autres, bien, fais-le, mais ne fais pas avec dureté. » Alors, ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le, que ce soit un encouragement comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, des femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Maintenant, le reste du passage va parler des besoins physiques, matériels et tout ça, mais le passage commence d'abord et avant tout avec les besoins spirituels, de s'occuper mutuellement de nos âmes. Vous voyez? On veut s'investir dans la vie des autres au sein de l'Assemblée. Et ça, c'est ça qui est majeur. Parce qu'après tout, on vient de le voir déjà au chapitre précédent, au chapitre 4, c'est ça qui dure, vous voyez? C'est notre piété qui dure. Ça va jusque dans l'éternité. Alors, on a besoin de prendre soin mutuellement de nos âmes. Alors, Paul dit à Timothée de ne pas reprendre les autres durement. Si quelqu'un lutte avec quelque chose, soit avec un péché et tout ça, et elle est en train de s'éloigner, s'endurcir et se refroidir à l'endroit de la parole de Dieu et dans sa relation avec Dieu, tu veux aller le voir, tu veux t'impliquer. Certaines personnes, on a besoin de ça. Moi, je me suis fait reprendre plus d'une fois. Ça m'est arrivé. Je remercie le Seigneur. Je me rappelle un frère était venu me voir il y a plusieurs années, puis j'étais en train de me refroidir, m'éloigner, tout ça. Et il est venu me voir. Et vous savez ce qu'il a fait? Il aurait pu dire, « Hey, Normand, tu fais dur. Hey, puis Normand, ça n'a pas l'air ce que tu fais là. » Puis il aurait pu, tu sais, comme me chicaner, tout ça, me pointer du doigt. C'est pas ça qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé, il dit, « Normand, j'aimerais ça que tu pries pour moi. » Il dit, « Ah oui? » Il dit, « J'aimerais ça que tu pries pour moi parce que j'ai la misère, finalement, avec toi en ce moment. Je te sens un peu t'éloigner de ça et je veux vraiment, prie pour moi. Qu'il n'y a rien dans mon cœur contre toi et tout ça. Hé, hey, mon ami, hey, j'ai fondu. Je suis retourné chez nous, j'ai prié le Seigneur, j'ai quelque chose dans ma vie tout ça. Et ça m'a permis de me rapprocher de Dieu, de cette belle exhortation de ce frère qui est arrivé avec tellement de douceur. Donc, on a besoin les uns des autres de s'exhorter, de s'encourager. Mais Paul dit, écoute, il y a une façon de le faire. Fais-le avec encouragement. Encourage-les. Fais attention à comment tu vas agir puis comment tu vas le traiter. Cherche plutôt à être un encouragement pour l'autre. Tu sais, si tu es conscient puis tu veux être un encouragement pour l'autre personne, veux pas, tu vas faire attention à ce que tu vas dire. Pas vrai? Est-ce que j'entends des « amen » Maintenant, tu ne veux pas fuir. Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, moi, je ne m'emmène pas. » Non, non, parce que là, tu ne t'occupes pas de son âme. Tu fuis. Ça ce n'est pas bien non plus. Non, on veut se mouiller. On veut vraiment intervenir et s'investir dans la vie des uns des autres. Mais il y a une façon de le faire avec beaucoup de douceur, avec respect. On le fait d'une manière pleine d'amour, cherchant à l'encourager. Deuxièmement, notre piété sera également évidente dans la manière de traiter les autres comme une famille. Ça, c'est vraiment beau. C'est une belle image qu'on a. N'est-ce pas intéressant comment Paul donne, inspiré du Seigneur, c'est le Seigneur qui est en train de donner cette belle image-là. C'est l'image d'une famille. Un père, une mère, une sœur. Il s'agit de se voir comme une famille, de se traiter les uns les autres comme si l'autre faisait partie de ma famille. Et je comprends que certains parmi vous, vous n'avez pas eu une bonne famille. Vous avez tout un arrière-plan difficile avec la violence et tout ça. Et l'image d'une famille, juste le mot famille ici, évoque peut-être des mauvais souvenirs. Mais ce n'est pas de cette façon-là que Paul va en parler. Il parle d'une belle famille, une famille qui va bien, la famille qu'on aurait dû avoir, cette belle famille. Eh bien, dans une belle famille, il y a des belles relations qui ont lieu. Là. Dans une bonne famille, tu voudras tout faire, par exemple, pour ta mère. Tu veux la protéger, tu veux la chérir, l'apprécier, tu veux l'honorer. Voyez-vous ce que Paul est en train de dire? Voyez-vous à quoi ressemble la vie chrétienne? C'est une famille. Dès que tu viens à Jésus pour avoir ton salut, il t'adopte dans une famille. C'est ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est l'acte par lequel le nouveau croyant, Dieu prend le nouveau croyant et le place, en fait, un membre du corps de Jésus-Christ, de sa famille. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et tu deviens un membre du corps de Christ qui est l'Église et de sa famille. Tu deviens son enfant. Il traite les hommes plus âgés que toi de la même manière. Comment on traite un père? On le traite avec respect, avec honneur. On veut écouter sa sagesse. Il y a plus d'expérience que nous. On veut écouter. De voir des jeunes hommes comme des frères. Les frères, ça se partage un paquet d'affaires. Qu'est-ce que tu partages à un frère que tu ne partagerais pas à un étranger, à ton voisin, par exemple? Tu vas dire des choses à ton frère que tu ne dirais pas au voisin. Pas vrai? Ça se partage. Ça ouvre son cœur. Ça dit comment ça se sent. Et t'en laisses plus passer à ton frère. Pas vrai? Tu es membre de la famille. Il y a des affaires que tu vas accepter de ton frère que tu n'accepteras pas en tout d'un collègue de travail. On en laisse passer un peu plus. Alors, c'est ça que Paul est en train de dire. Regarde, traite les gens comme si c'était ton frère. Les jeunes gens, les jeunes garçons. Et c'est la même chose avec les filles. On les respecte, on fait attention à elles. Alors, finalement, il s'agit de se traiter avec grâce, de faire un pas de plus pour l'autre. Alors, voici à quoi ressemble la vie chrétienne, à quoi ressemble la piété. On se traite comme si on faisait partie de la même famille. Il y a un mot qui résume bien tout ça ici, verset 1, verset 2, lorsque ça parle de famille, ça parle de relation. Qui parle famille parle de relation, pas vrai? Ici, l'Église est une famille, ça signifie que toi puis moi, on a besoin d'entrer en relation les uns avec les autres. On veut cultiver des relations profondes. Parfois, il y a des fois où je pense qu'on est plus sabbatiste que baptiste. Tu sais, c'est quoi un sabbatiste? Comment ça va, Normand? Ça va. Je suis un sabbatiste. Ça va. Mais ça ne va pas plus loin. Ça arrête là. Juste ça va. Puis on n'entre pas dans une relation profonde. Pas vrai? Mais le Seigneur veut qu'on entre dans une relation pas mal plus profonde les uns avec les autres. Ed Welch, qui a écrit un livre qui vient de sortir en français, qui s'intitule « Prendre soin des uns des autres, 8 manières de cultiver des relations profondes ». Et voici ce qu'il dit. Il dit « Notre appel comme membre de l'Église de Jésus-Christ consiste à nous occuper mutuellement des âmes. Nous voulons présenter nos problèmes au Seigneur et les uns aux autres. » Il y a des gens, des fois, qui vont me dire, « Ah, moi, je n'en parle pas à personne. Moi, je m'en parle juste avec Dieu. » Pourtant, le Seigneur a bâti l'Église pour qu'on puisse, ensemble, s'exhorter, s'encourager mutuellement les uns les autres. C'est la raison d'être de l'Église, de s'aider à grandir et partager nos luttes, nos joies et tout ça. 3, la parole de Dieu nous montre que Dieu prend plaisir à servir des gens ordinaires, au moyen de gestes d'amour ordinaires, pour nous aider à grandir et à grandir en lui. Alors, on n'aura pas le temps de tout regarder ce qu'il dit dans son livre, mais voici quelques-unes des manières de cultiver des relations profondes les uns avec les autres. Premièrement, pour cultiver des relations profondes, ça prend quoi? Ça prend l'humilité. Premièrement, il faut réaliser que nous-mêmes, on a besoin d'aide. Des fois, pour certaines personnes, c'est gros ça. Mais on a besoin d'humilité, de réaliser que j'ai besoin des frères et des sœurs de l'Assemblée. J'ai besoin de vraiment ouvrir mon cœur aux autres, de partager peut-être des luttes, partager des joies ensemble. J'ai besoin de bâtir ces relations-là. J'ai besoin de demander aux autres de prier pour moi. Avez-vous la difficulté à demander aux autres de prier pour vous? On est là, c'est ça, on est une famille. Le plus grand théologien qui a jamais existé, un costaud spirituel, un héros de la foi, l'apôtre Paul, n'arrêtait pas de dire comment il avait besoin d'un puis de l'autre. « Emmène-moi Marc, j'ai besoin de lui. » Constamment, la maturité, vous savez c'est quoi la maturité spirituelle? La maturité passe par l'interdépendance. Et ça, c'est gros parce qu'on veut tellement être indépendant, pas vrai? Mais la maturité va passer par l'interdépendance en réalisant qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin de s'ouvrir aux frères et aux sœurs, de chercher leur appui, chercher leur encouragement. Deuxièmement, pour cultiver une relation profonde, on a besoin de s'approcher des autres. Alors, il va falloir que tu prennes l'initiative, que tu y ailles. Attends pas qu'on vienne vers toi. Tu y vas. Je sais qu'il y a des introvertis, il y a des gens timides et tout ça. Puis il y a des c'est plus facile pour certains que d'autres. Il y en a qui sont extrovertis, tout ça. Je comprends ça. Mais il faut que tu fasses l'effort. Puis le Seigneur va t'aider. Tu dois tendre la main. Tu dois aller vers les autres. Vas-y. Dieu a pris l'initiative pour s'approcher de toi. Pas vrai? Alors, nous aussi, on a besoin de prendre l'initiative de s'approcher des autres. Jésus a pris l'initiative. Il a même fait un détour pour aller voir la Samaritaine qui était tout seul sur le bord du puits, juste pour aller lui parler. Jésus, d'ailleurs, a vu Zachée, un homme d'affaires. Il a vu Zachée. Qu'est-ce qu'il a dit? Zachée, je m'en viens souper chez vous. Tu serais-tu à l'aise de faire ça ce matin, là, juste après le service? Parfait inconnu, sans voir. Hey, c'est quoi ton nom? Ah, je m'appelle Johnny. Bien, je m'en viens souper chez vous ce soir. Hey, hein? Mais Jésus a fait ça avec Zachée. Et en d'autres mots, le point, c'est ceci, c'est qu'il aimait tellement les gens qu'il voulait connecter avec les autres. C'est de l'amour, ça. Entre dans la vie des autres. Dérange les autres. Oui, c'est correct. On dit que c'est impoli. Non, non, regarde. Dieu nous le dit. Dérange les autres. Va chez eux. Invite-les chez vous. Invite-les à souper, à manger. Va au restaurant avec. Va prendre un café avec. Pas vrai? J'entends-tu des amen? Ah oui, c'est bon. Hey, c'est super ce que quelqu'un vienne te voir puis s'intéresse à toi. Comment c'est donc encourageant? On a besoin de ça. Ça, quelle belle image qu'on a ici de l'amour incessant de Dieu. Alors, on veut faire comme le Seigneur, on veut s'approcher des autres, on veut connecter les uns les autres. C'est pour ça qu'on a des groupes connexion après le service, dimanche matin. On veut connecter. Troisièmement, pour cultiver des relations profondes, on a besoin d'écouter aussi. Ça prend une oreille, il faut s'intéresser. Qu'est-ce qu'on fait avec les membres de notre famille? Bien, on ne fait pas l'étranger. On se parle, on s'écoute, on échange. Et c'est comme ça qu'on va développer l'intimité. Isabelle en a parlé justement, Isabelle coup de genou, mais c'est vrai, dans notre cas, c'est tellement vrai. Ma fille Julie, lorsqu'elle était adolescente, là, elle, son moment de la journée où elle voulait s'ouvrir et parler, vous savez, c'était quand? C'était à minuit. Oh mon Dieu, moi j'étais couché comme, j'étais tendu comme ça, là, puis juste à quelques secondes de... Puis là, elle vient s'asseoir, puis je le sais, je suis habitué, je le sais, elle veut parler, puis tout de mon cœur de papa dit, écoute-la. Mais mon corps me dit « dors ». Faites bourrée. Elle venait s'asseoir dans le lit. Puis là, c'était profond. Puis là, je suis là. Si tu veux te montrer intéressé, puis là, les yeux ferment. Mais ma femme, heureusement, était... Ma femme, elle prenait le temps d'écouter, mais des fois, genre, après quelques minutes, là, je dormais, puis ça. Il faut prendre le temps d'écouter. C'est tellement important. On le fait avec nos ados, on veut le faire avec nos ados, avec nos enfants, tout, mais il faut le faire les uns avec les autres aussi. Le temps, on veut se réjouir des belles choses qui se passent dans la vie des autres. Hein? On veut célébrer les succès des autres ensemble, mais en même temps, on veut partager aussi les fardeaux, les peines des autres. C'est ça que la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, hein? Nous dit Romain. Alors, notre piété sera donc évidente dans notre façon de prendre soin des besoins spirituels, dans notre manière de traiter les autres comme une famille, et dans notre manière de prendre soin des besoins matériels. Toute la section du verset 3 jusqu'au verset 16 fait référence à la façon de prendre soin des veuves ici. Ailleurs, on voit l'importance de prendre soin des orphelins et ailleurs des démunis. Ici, Paul va se concentrer sur les veuves et ce qu'il est en train de dire finalement, c'est que tu as besoin vraiment d'une structure au sein de l'Église pour venir en aide aux gens, pour pas qu'ils soient négligés. On le voit déjà dans l'acte 6, hein, que certaines veuves étaient négligées, puis ils ont dû faire des changements, mettre des diacres sur pied, tout ça, pour s'assurer de bien nourrir ces femmes qui étaient dans le besoin. C'est un appel, finalement. Tout le passage est un appel de prendre soin des gens qui sont dans le besoin. La plus belle publicité que le christianisme peut avoir, c'est le christianisme qui est bien vécu. Et ça se passe dans notre manière de nous conduire les uns avec les autres. Alors, le passage fait référence à l'aide qu'on peut apporter aux femmes, les veuves dans ce cas-ci, qui n'ont pas les moyens de se soutenir elles-mêmes. On parle d'un contexte de l'Empire romain ici, et on veut l'appliquer ici à aujourd'hui, mais à l'époque, vous savez, il y a des jeunes filles se mariaient à 14 ans, et puis tu devenais grand-maman à l'âge de 30 ans, imagine. Environ 30 % des femmes aussi, en bas de 40 ans, étaient veuves, et ça monte au-dessus de 40 % lorsque tu avais 40 ans et plus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de veuves, presque une sur deux. C'était assez phénoménal. Donc, l'Église s'est mouillée, elle voulait prendre soin de ces gens qui souffraient. Les démunis, savaient tranquillement, ils ont découvert que les chrétiens les avaient à cœur, si bien que les démunis savaient qu'ils pouvaient compter sur les chrétiens pour recevoir de l'aide. Lorsque des personnes avaient faim, ils savaient qu'ils avaient juste à cogner à la porte d'un chrétien, puis ils savaient que les gens étaient pour les avoir à cœur, les prendre à cœur, puis les nourrir. D'ailleurs, l'histoire raconte, et je vous ai déjà conté ça, que lorsque tu cognais à une porte d'une famille chrétienne, puis il n'y avait pas de nourriture à ce moment-là pour te nourrir, ils le jeûnaient, la famille jeûnait, t'emmenait dans la maison, et ils jeûnaient jusqu'à ce que tout le monde puisse manger ensemble. D'ailleurs, l'auteur du livre « The Rise of Christianity », la montée du christianisme, Rodney Stark, raconte qu'en l'an 250, il est estimé que 10 000 chrétiens ont jeûné l'équivalent de 100 jours dans l'année afin de donner 1 million de repas aux pauvres. Incroyable! Alors, depuis le début de l'Église, l'Église a toujours cherché à faire du bien, prendre soin des vulnérables. Tu devenais très vulnérable parce que tu devenais veuve et tu n'avais pas de famille immédiate à prendre soin de toi. La réponse, c'était quoi? C'était l'Église. L'Église s'est mouillée. Alors, Paul dit « prenez soin des veuves ». On le voit dans l'acte 6. Et nous, au Sentier, on a justement à cœur de prendre soin des gens démunis, des gens qui ont de la difficulté financièrement et tout ça. On a tout un comité d'entraide, et c'est ce que Paul dit, d'avoir une structure en place pour être plus efficace. C'est ça qu'il dit dans le chapitre. Et nous, ici, on a tout un comité d'entraide, une équipe qui travaille là-dedans, qui aide dans les déménagements, rénovations et tout ça. Et c'est phénoménal, tout ce qui se fait ici. D'ailleurs, il y a une firme à Toronto, Mike, qui est en train de faire toute une étude à travers le Canada de certaines églises pour mesurer, monnayer en quelque sorte les heures de bénévolat et d'entraide qui se font dans les églises. Parce que vous savez, le gouvernement en ce moment est en train de remettre en question tous les organismes à but non lucratif, veulent enlever l'exemption de taxes des églises. Et il y a tous ces pourparlers-là. Donc, il y a une firme à Toronto, un gars qui a un doctorat, qui est en train de faire une recherche, et notre église est embarquée dans ce projet-là pour essayer de donner la valeur numérique et monétaire. C'est le langage, finalement, du gouvernement pour démontrer que, finalement, il y a des avantages à conserver et à garder les églises. Il y a des avantages même socio-économiques pour la ville des églises. Et d'ailleurs, je viens de recevoir des résultats, juste un petit résultat. J'attends le rapport complet. Et c'est vraiment intéressant. Juste en 2018, nous, là, l'Église de Sentier, d'accord? L'impact socio-économique que notre Église a eu en 2018 sur la ville de Gatineau est l'équivalent de 1,6 million de dollars. Est-ce que j'entends des « amen » ici? Oui, applaudissons le Seigneur pour notre Église, le Sentier qui s'implique, qui se mouille. Hey, la société a donc gagné, voici ce que l'expert a calculé, la société a donc gagné 4,6 fois plus que si elle nous avait taxés. En d'autres mots, elle aurait reçu moins d'avantages financiers à nous taxer que toute l'aide qu'on apporte dans la société avec toutes les heures de bénévoles et l'entraide qu'on fait et le soutien qu'on fait. C'est phénoménal. Pour chaque dollar que l'on dépense ici à l'Église de Sentier, d'accord? Pour chaque dollar qu'on dépense, on vote un budget chaque année. Pour chaque dollar que notre Église dépense, la ville de Gatineau reçoit l'équivalent en bénéfices socio-économiques de 4,9 cents. Chaque pièce qu'on dépense ici, la ville reçoit 4,9 piastres, l'équivalent de 4,9 piastres en avantages socio-économiques. Amen? Donc, on veut vous exhorter, vous encourager à donner, parce qu'il y a tous des projets ici, là. On va vous parler de ça la semaine prochaine. On a des projets, comme on le voit, déjà en 2018, l'équivalent de 1,6 million de dollars d'impact sur notre ville. Alors, donnez, ne négligez pas vos offrandes. Il y a eu comme une petite baisse récemment. Puis, ce n'est pas pour moi, c'est tout ce qui se fait ici. Il y a une cause, il y a une vision ici à l'Assemblée. Et on vous encourage, on vous exhorte à être généreux. Oui, on est généreux dans nos bureaux, il y a toutes sortes d'affaires, de s'entraide et tout ça, mais l'Église fait des choses tout à fait uniques et ça a une portée éternelle qui va durer éternellement. Amen? Alors, depuis ses débuts, l'Église a toujours cherché à prendre soin des gens. Proverbe 29, 7 dit « Le juste connaît la cause des plus faibles, tandis que le méchant ne comprend pas la connaissance. » En d'autres mots, lui, il ne se soucie pas de ça, il ne se casse pas la tête, il ne cherche pas à comprendre. Mais les chrétiens s'en soucient. Jacques 1,27 dit « La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » L'Église doit être reconnue comme étant un lieu où l'on prend soin les uns des autres. Alors, notre piété, elle va être évidente dans notre façon de prendre soin des besoins spirituels, dans notre manière de traiter les uns et les autres comme une famille, dans notre manière de prendre soin des besoins matériels, et aussi dernièrement, dans notre priorité que l'on accorde à notre propre famille. Il y a des qualifications qui font partie de la liste. Alors, si tu avais, si tu avais des parents, si tu étais veuve, mais tu avais des enfants, l'Église encourage les enfants à prendre soin, finalement, de la responsabilité financière. C'était même la loi de l'Empire romain. Même les non-croyants faisaient ça. C'était une loi de l'Empire romain. Tu étais poursuivi en justice si tu ne soutenais pas tes parents financièrement dans la ville. C'est pour ça que Paul va dire plus loin, si quelqu'un qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Oui, parce que les non-croyants dans l'Empire romain étaient obligés, même par la loi, de soutenir la famille financièrement et les parents. Donc, Paul dit, écoutez, imaginez si les non-croyants soutiennent, sont tenus à soutenir la famille. Combien plus forte raison la famille de Dieu devrait prendre soin de sa famille. Alors, et ça commence chez nous. Ça commence comment je traite les autres chez nous, dans ma famille. Suis-je un serviteur à la maison? Des petits gestes qui font vraiment une grande différence dans la vie des couples. Tu sais, tu t'en vas dans la cuisine, tu es un mari, puis tu dis, chérie, je m'en vais dans la cuisine, est-ce que je peux te ramener quelque chose? Pas grand-chose, hein? C'est pas grand-chose. C'est des petits gestes qui font une différence, qui embellit la journée d'une autre personne. Laisse-moi prendre ta voiture, chérie, je vais aller mettre du gaz. Je sais que demain, tu t'en vas travailler tout seul, puis je vais aller mettre du gaz pour pas que tu aies besoin de le faire demain matin. Prends la soirée de congé, chérie, je vais m'occuper des enfants et des devoirs ce soir. Ah, moi, j'aurais pensé que les femmes auraient tellement dit « Amen » puis crié à ça, mais vous êtes pas mal tranquille. Il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes dans l'Assemblée. On doit être pas mal des hommes ce matin. Ça n'a pas de bon sens. Il me semble que j'entendrais crier. Moi, là. Je parle des hommes. J'exhorte les hommes. Vous savez pourquoi? Parce que cette semaine, il y a eu un article dans le journal de la presse qui parle de la charge mentale des femmes. D'une femme qui a fait une étude à l'Université de Laval puis a démontré que la charge mentale d'une femme, beaucoup plus lourde, c'est prouvé, les études le démontrent, beaucoup plus lourde chez la femme. C'est toute la responsabilité du foyer, l'organisation du foyer, toutes les choses à organiser, à faire et tout ça. Ce n'est pas la tâche comme telle, ce n'est pas le geste comme tel, c'est toute cette pensée, cette charge mentale de tout organiser, s'assurer tout va bien. Elle est beaucoup plus lourde sur la femme. Et je sais, je réalise qu'il y a des hommes ici qui font beaucoup de choses pour leur femme. D'accord? Je comprends, là. Mais c'est une réalité, les études le démontrent, que la charge mentale est beaucoup plus lourde chez la femme que chez les hommes. Elle se préoccupe de choses, se soucie de certains détails que nous, on ne pensera même pas. En tout cas, beaucoup moins. Donc, je veux nous encourager, les gars, à faire un effort de plus à la maison pour aider. En d'autres mots, sois une bénédiction pour ton conjoint. Alors, tout ce que ce passage nous enseigne, au fond, c'est que le cœur qui aime Dieu va avoir la compassion pour les autres. Et des fois, vous savez quoi? On ne voit pas toujours ce qui se passe. Des fois, tu ne vois pas l'impact que tu vas avoir dans ta vie. Des fois, tu ne réalises pas le petit geste que tu vas poser pour venir en aide à quelqu'un d'autre, comment ça peut aller loin. Bien, peut-être que tu ne le réaliserais même pas. Mais je veux t'encourager parce que le Seigneur voit tout ça. Le Seigneur voit tout ce qui se passe dans le secret. Puis, il va te récompenser pour ça. Amen. Moi, je me rappelle il y a plusieurs années. On venait de se convertir, ça faisait pas tellement longtemps. Puis, il y a un monsieur, M. Fournier, qui était membre de l'église à Chambédé où on allait. Et il avait commencé à aller en prison au centre fédéral, puis au B16 à Laval. Puis un soir, il nous a invités à nous joindre à lui, ma femme et moi, Lise et moi, pour aller avec sa femme, pour aller visiter des prisonniers à Saint-Vincent-de-Paul. C'était le gros pen là, qu'on appelait. Il y avait des meurtriers, des voleurs, la banque et tout ça qui étaient là. Puis tu rentres, puis tu restes tranquille. Tu t'en vas là-dedans, puis tout ça. Je me rappelle une fois, il y avait eu une émeute. Elle dit, couchez-vous! Tout le monde nous disait qu'il fallait se coucher à la tête. Ah, c'est trop. Fait que là, on s'en va là, puis on visite. Puis M. Fournier avait tellement à cœur les prisonniers qu'il s'assoyait, passait du temps avec eux autres, puis juste les écoutait, jasait, apportait le message de la parole de Dieu. Je me rappelle, il y a un jeune homme, j'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux, il y avait un jeune homme. Hey, mon ami, il avait les cheveux longs, il avait un bandeau rouge. Le gars, tu sais, il faisait du karaté. Il était shape. Il n'y avait pas une once de graisse, là. C'était comme. Il faisait, ça a l'air, au-dessus de 1000 set-ups, puis des push-ups, des centaines de push-ups. Le gars, il était vraiment en forme. Il était en dedans, en prison, 4 ans pour avoir fait un vol de banque. D'ailleurs, quand la police l'a arrêté, ça a l'air, il m'a conté ça. Quand la police l'a arrêté, ils l'ont couché, puis il avait son gun de la main, puis il dit T'as-tu un gun? Puis le gars, il a pris son gun, il voulait le donner au policier. Fait que le gars prend son gun, puis il fait ça de même, dans la face du policier. Ah, oh, mon ami, il ne faut pas faire ça, hein, Seb? Non, hein, je sais pas. Non, c'est comme. Ça commence mal, disons. Hey, le gars, fait que finalement, M. Fournier allait là toutes les semaines rencontrer ce cher bonhomme-là, ce jeune homme-là. Et finalement, ce jeune homme-là s'est converti. Il est venu au Seigneur Jésus. Et ce gars-là est sorti finalement de prison, il a fait son temps en prison, puis ça, il est sorti, il est retourné aux études, il est devenu un ingénieur. Puis après ça, il est devenu un homme d'affaires. Et malheureusement, M. Fournier n'a pas eu le temps. Il est mort. Pas eu le temps de voir ce que ce cher jeune homme est devenu plus tard dans sa vie. Mais ce jeune homme-là, non seulement est devenu chrétien, mais il est devenu millionnaire. Il est devenu un homme d'affaires ici au Québec. Et il donne plein d'argent à des causes, à son église locale. Il soutient l'œuvre pour voir d'autres personnes comme lui découvrir le Seigneur Jésus. M. Fournier n'a jamais vu ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là. M. Fournier est décédé. Il est dans la présence de Dieu. Mais vous savez quoi? En ce moment, il est en présence de son maître, consolé par le Seigneur Jésus. Et il est récompensé pour toutes ces belles choses qu'il a faites en secret. Donc, je veux t'encourager. Peut-être que tu es découragé parce que peut-être que personne vient te dire merci. Peut-être que tu fais des choses, tu n'arrêtes pas de faire des sacrifices. Puis, tu n'entends pas beaucoup de reconnaissance. Sache une chose, que le Seigneur Jésus garde un record détaillé de tout ce que tu fais en son nom. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier parce que toi-même, tu as pris l'initiative de venir toucher notre vie. Tu as quitté le ciel, tu t'es humilié, tu as pris la forme d'un simple serviteur pour venir ici nous servir. La Bible dit que tu n'es pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon de plusieurs. Ô Seigneur, combien on veut te louer ce matin pour cet amour incroyable, inconditionnel, plein d'affection que tu as eu envers chacun d'entre nous. On te prie, Seigneur, que demain matin, on puisse chercher à voir qui tu mets sur notre route afin qu'on puisse les bénir. Au nom de Jésus. Amen.